Avoir 33 ans et être l'auteur de disques qui sont déjà entrés dans l'histoire. Avoir 33 ans et se voir auréolé du statut d'icône générationnelle. Avoir 33 ans, être afro-américain, rappeur et s'appeler Kendrick Lamar. Cet épisode de Pop & Co est consacré à cet artiste, l'un des plus influents, tout genre musical confondu. En avril 2018, Kendrick Lamar reçoit le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie musique pour son quatrième album, Damn. Jusqu'ici, le Pulitzer saluait exclusivement le jazz ou la musique classique. Kendrick Lamar est donc le premier rappeur à en être le lauréat. Mais l'œuvre et la personne de Kendrick Lamar n'ont pas attendu le Pulitzer pour dépasser largement le cadre musical. Vous parlez de Kendrick Lamar ce matin, c'est vous parler aussi de John Coltrane, de l'histoire du mouvement pour les droits civiques, de Marguerite Duras et de ma mère. Dans la deuxième partie de Pop & Co, aujourd'hui, on passe de la Californie au quartier de Montparnasse à Paris. Nous serons devant les guitares, l'écran, le clavier et la souris de Louis Chédid pour entrer dans les coulisses d'une de ses chansons. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Allô?
Oui, c'est moi. Ça va?
Oui, ça va. Et toi? Salut.
J'appelle une auditrice de Pop & Co.
Moi, j'ai l'impression que toi, t'es en train de fumer, hein?
Mais non, c'est ma mère. Dis donc, samedi, je vais parler d'un musicien qui s'appelle Kendrick Lamar. T'es là?
Kendrick quoi?
Kendrick Lamar.
Ah, ça me parle pas du tout, hein. Inconnu au bataillon, là, désolé, mais... Et puis, qu'est-ce qu'il fait exactement? Du rap?
Ouais, c'est un rappeur américain.
Ouais. Tu sais bien, je t'écouterai de toute façon. Mais t'enregistres, là?
Oui.
Ah ben, dis donc, c'est un peu raté, hein.
Exceptionnellement, le Pop & Co du jour pourrait s'intituler en partie Kendrick Lamar expliqué à ma mère. I'd have been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna tell me. But they know me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto because it dick is high. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. Je suis gare de Lyon, au bout de la voie 15. J'attends Nicolas Rogès. Il a 29 ans, il arrive de Grenoble et vient de publier une somme de 450 pages sur Kendrick Lamar. Nicolas et moi ne nous sommes jamais rencontrés et pour être sûr que je le repère, il me précise par texto « Je suis grand, j'ai pas de cheveux et un t-shirt noir ». Bah c'était vrai. Nicolas ?
Nicolas ?
Ça va et vous ?
Bah ouais, très bien.
Le voyage s'est bien passé ?
Ouais, nickel, parfait.
Le livre de Nicolas Rogès paru il y a deux jours s'intitule « Kendrick Lamar, de Compton à la Maison Blanche ». La Maison Blanche, je vois ce que c'est. Compton, c'est plus flou. Disons que j'en ai une idée sommaire. Compton, ville de Californie, épicentre du rap de la côte ouest, a longtemps porté le titre de ville la plus meurtrière des États-Unis.
Tous les albums de Kendrick Lamar sont arrimés à Compton. Ils sont ancrés dans sa ville natale. Et elle est toujours dans tous ses textes, tous ses albums, même ceux qui ont... très bien marché commercialement, où on a l'impression que maintenant, il vit dans une grande ville à Los Angeles, etc. Il reste quand même très lié à Compton. Et cette musique-là, la musique de Kendrick Lamar, transpire Compton, parce que Compton est peut-être l'endroit le plus mythique sur la côte ouest pour le rap américain. Il y a eu New York à l'est, et il y avait Los Angeles à l'ouest. Et cette petite ville de Californie, qui est juste à côté de Los Angeles, les habitants de Compton se revendiquent comme la plus grande concentration de rappeurs au mètre carré. Et c'est pour ça que Kendrick Lamar est très lié à sa ville, il en est très 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 fier, et il en parle tout le temps.
Lui a réussi, et il ne renie pas d'où il vient.
Il reniera jamais d'où il vient. C'est quelque chose qui est très intéressant avec Kendrick Lamar. Les rappeurs revendiquent toujours l'endroit d'où ils viennent. C'est quelque chose de très important. L'aspect territorial du rap.
Le quartier.
Ouais, le quartier est très important. Mais Kendrick Lamar, plus que de le mentionner, il revient tout le temps chez lui, sans sécurité, sans faire de publicité. Et c'est quelque chose qui est très important dans sa carrière, et c'est la raison pour laquelle sa ville natale le soutient autant. Celebrate. We can all harvest the rap artists of N.W.A. America target our rap market as controversy and hate. Harsh realities we in, made our music translate to the coke dealers, the hood rich and the broke niggas that play with them gorillas that know killers that know where you stay. Roll that kush, crack that case, 10 bottles of rosé. This was brought to you by Dre. Now every motherfucker in here say, look who's responsible for taking coffee international. I make them holler. Compton est l'épicentre du gangsta rap. Si on traduit littéralement ces deux mots, ça donne « rap de gangster ». Voici une définition moins réductrice par Nicolas Rogès. Il y a deux choses que je ne cautionnerai jamais dans le rap, c'est l'homophobie, la misogynie que le gangsta rap a parfois mis en avant. Par contre, parler de trafic de drogue, parler de meurtre, évidemment, ce n'est pas forcément agréable à entendre, il ne faut pas le glorifier, mais il faut en parler parce que c'est une réalité qui existe. Leader de Public Enemy, Chuck D, disait que le rap était le CNN du ghetto. Et le gangsta rap, c'est exactement ça en fait. C'est des rappeurs qui sont dans la rue et qui ont une sorte de caméra à l'épaule et qui racontent tout ce qu'ils voient autour d'eux. Et tout
avec du rap reportage, d'une certaine façon, comme des reporters.
Exactement, tout ce que ça implique de violence, de trafic, c'est une réalité brute. Et c'est pour ça aussi que le gangsta rap a eu son lot de scandales, de tentatives de décrédibilisation aussi. Parce qu'à une époque, c'était une musique qui n'était pas, toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'était une musique qui n'était pas forcément acceptée par les hautes sphères médiatiques. Parce que c'est une réalité que beaucoup de gens ne voulaient pas voir en fait. Et c'est en ça que c'est une musique importante, parce qu'elle dit beaucoup de choses sur l'Amérique des années 80 et des années 90.
Et l'un des groupes emblèmes du gangsta rap de Compton, c'est N.W.A. Et comme vient de l'énoncer ce garçon, le groupe N.W.A, c'est Dr. Dre, Ice Cube et Easy Motherfucking E. Kendrick Lamar, né à Compton en 1987, est l'héritier de cette histoire, celle de sa ville et celle du gangsta rap. Mais la sortie de son premier album en 2011 raconte un changement. Avec Kendrick Lamar, le gangsta rap n'est plus le même. Kendrick Lamar contribue à le faire bouger.
Kendrick Lamar, en fait, a été souvent présenté comme justement le bon gamin, donc le rappeur qu'il est acceptable d'écouter, justement parce que certaines personnes ont l'impression qu'il n'incarne pas les clichés auxquels certaines personnes ont voulu réduire le rap. Alors que c'est totalement l'opposé, il parle en permanence des problèmes que le crack a provoqué sur sa communauté, l'explosion du crack dans les années 80 sous la politique de Reagan. Il parle en permanence de meurtres, de violences, mais il en parle d'une manière brute et sans glorifier quoi que ce soit. C'est pas de dire je roule dans la rue dans ma bagnole et j'ai un flingue avec moi, c'est de dire mes amis sont morts. Des oncles à moi sont morts, il a vu un oncle se faire tuer devant lui par exemple, des choses qui l'ont traumatisé, et il s'est dit « moi je suis le bon gamin, et je vais vous décrire ce qui s'est passé dans cette ville de dingue ». Donc cette posture est différente.
En exposant aussi ses peurs, ses fragilités.
Il est très inspiré par un rappeur qui s'appelle Tupac, en ça, dans le sens où il n'a pas peur du tout de dévoiler ses failles. Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui avoue qu'il ne sait absolument pas qui il est en fait. Et il est toujours tiraillé entre le bien et le mal, entre le paix et la violence, entre le sang et l'eau bénite, parce que c'est quelqu'un de très religieux. Il est toujours en train de s'interroger sur lui-même, sur son art, et sur ce qu'il mérite d'être le leader que les gens ont présenté.
En 2017, Kendrick Lamar a 30 ans et c'est une star mondiale. Une star qui publie un morceau intitulé « Fear ». When I was 27, I grew accustomed to more fear. Accumulated 10 times over throughout the years. My newfound life made all of me magnified.
Il décrit en trois couplets ce dont il avait peur quand il était enfant, puis adolescent et puis adulte. Et donc on voit tout le cheminement de sa pensée et tous les démons qu'il ne quitte pas en fait.
C'est quoi ces démons et ces peurs qui ont scandé sa vie entre 7, 14 et 21 ans?
Justement, ces démons sont tous reliés à Compton, sont tous reliés à ce qu'il a vécu pendant son enfance. Et c'est quelque chose qui traîne avec lui. Quand il était enfant, il avait peur de sa mère qui lui disait « retourne à l'école, travaille bien à l'école ». Quand il était adolescent, il avait peur de se faire tirer dessus, ou il avait peur de prendre un mauvais chemin, de commencer à vendre de la drogue comme certains de ses amis. Et quand il était adulte, il avait peur que ses amis-là, ou du moins la vie qu'ils ont vécue, le rattrape lui aussi. Il a peur de retourner, par exemple, dans une situation de pauvreté qu'il a connue quand il était enfant. C'est pour ça qu'il dit lui-même qu'il ne s'achète presque rien, pas de grosses voitures, pas de grandes villas, parce qu'il se dit que peut-être que tout va s'arrêter à un moment. Et c'est cette peur-là qui traîne avec lui dans tous ses albums.
Damn. God damn you. God damn me. God damn us. God damn we. God damn us all.
Je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce que raconte Kendrick Lamar. N'importe qui peut s'identifier à la solitude dont il parle, à la dépression qu'il habite parfois, à la peur de l'avenir, en fait, tout simplement. Et même si ces peurs-là prennent leur source dans des choses que beaucoup de personnes n'ont pas vécues, surtout les personnes qui sont loin de Compton et de cette réalité-là, je pense que ces thèmes qui sont universels, et Kendrick Lamar a une écriture très visuelle. Ses albums sont presque comme des romans, comme des films de cinéma qu'on découvre un petit peu au fil des chansons. Et il parvient en fait à immerger ses auditeurs dans un univers, une espèce de capsule temporelle. You know.
Sur ce morceau intitulé Average Joe, Kendrick Lamar dit ceci: je ne fais pas de la musique de blanc, ni de la musique de noir. Je fais de la musique de tous les jours.
And OG once told me, a real gangster is either dead or in jail, or behind the scenes getting real money. I'm gone.
Fatima?
Oui, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous entends. Pardon, je suis un petit peu en retard, je me suis perdue dans les couloirs de la maison de la radio.
Je peux comprendre.
J'ai rendez-vous au téléphone avec Fatima Das. Elle vient de publier un premier roman remarqué qui s'intitule « La petite dernière ». J'avais d'abord croisé Fatima Das dans les dédales de la maison de la radio et je voulais lui parler de sa façon d'écrire et de Kendrick Lamar. Elle m'a d'abord dit qu'elle s'identifiait à lui parce qu'il est croyant, et elle aussi.
Et aussi dans la contradiction totale dans sa musique, j'ai l'impression.
C'est quoi
ça? Ça me plaît.
C'est quoi cette contradiction?
Il peut te parler de Dieu et te parler d'amour, et en même temps ne pas te parler d'amour et te parler d'argent et te parler de... Et ça, je trouve ça hyper réussi.
Comme la petite dernière, c'est aussi une scansion, ce sont des phrases courtes, c'est aussi ça qui vous touche chez lui.
Ouais. Moi, je suis à la recherche d'un rythme assez saccadé, assez rapide, que je trouve chez Kendrick Lamar et qui m'ouvre un champ des possibles, en fait.
Kendrick Lamar, comme il est américain, évidemment, il chante en anglais. Et vous comprenez toutes les paroles?
Pas du tout. Je comprends pas tout. D'ailleurs, il va super vite et c'est très difficile de tout comprendre. J'aime bien être bercé par une autre langue. J'aime bien ne pas savoir tout aussi.
Reminiscing when the LA Raiders was in my home. Snapback fitted on my uncle dorm, and I don't cut on. Dick riding, I'm addicted to Westside. Living in a city where the skinny niggas die in a semi-bullet fire, but it turned me to a flying. Trying.
Moi, dans mon écriture, j'ai cherché la phrase courte, la phrase qui peut dire beaucoup, mais avec des mots simples, directs, et pas avec des longues phrases. Parce que j'ai horreur de la longue phrase.
Est-ce que vous pouvez lire un extrait de la petite dernière pour illustrer ça? Le livre est à côté de vous ou pas?
Non, je vais le prendre, il est juste à côté.
D'accord.
N'importe quel extrait?
Plutôt un début de chapitre.
Ok, j'en ai un. Je m'appelle Fatima. Je suis censée porter un nom pacifique. Je crois que j'ai sali mon prénom. Un soir, au lycée, pendant ma dernière année, j'agresse un garçon. Il s'appelle Benjamin. Quand il parle, ses mains l'accompagnent. Il est pâle, maigre, efféminé. Benjamin passe devant moi, je lui fais un croche-patte. Il trébuche, se relève, me regarde et me demande pourquoi j'ai fait ça. Je lui dis de dégager avant que je m'énerve. Il hausse le ton, réitère sa question sur un ton révolté. T'es un sale pédé, qu'est-ce que tu parles avec moi? Bouge avant que je t'explose. Les quatre personnes qui sont à mes côtés rigolent un peu, tout en essayant de me calmer. Benjamin s'en va en sanglots. J'ai envie de me buter. 2 ans plus tard, je croise Benjamin à Clichy-sous-Bois. Je pense à ce que j'ai fait. Je pense à ce que je suis devenue. Je ne trouve pas la force de m'excuser.
Dans son premier roman, intitulé La petite dernière, Fatima Das cite autant Annie Ernaux et Marguerite Duras que des rappeurs comme Lil Wayne et Kendrick Lamar.
Parce que j'avais envie de mélanger les mondes.
Mélanger quel monde?
Ce qui relève de la culture classique et après, je sais pas comment on appelle ça, d'écouter du rap, pas la musique forcément qui est légitime en fait. J'avais envie que ça aille dans le même roman. Parce que je trouve ça hyper important aujourd'hui d'assumer qu'on écoute du Kendrick Lamar quand on écrit ou quand on lit. C'est pas bien vu partout, mais aujourd'hui j'ai envie qu'on puisse être vraiment qui on est. Il faut pas effacer ça.
Merci beaucoup, Fatima.
Merci à vous.
À bientôt, bonne suite.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams?
What's the yams?
The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes we can, oh yes we can.
I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider, what the fuck happened?
Oh no,
I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta.
Man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. When you got the yams.
The yams.
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody screaming Compton, I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, betting woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah,
bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
France Inter.
I remember you was conflicted.
Rebecca Manzoni.
Misusing your influence.
Pop & Co.
Et aujourd'hui, Pop & Co est dédié à... C'est ma mère qui va vous le dire.
Kendrick quoi?
J'ai déjà plus le nom.
Kendrick Lamar, rappeur qui du haut de ses 33 ans raconte les États-Unis d'aujourd'hui et l'histoire de la musique noire américaine. Rien que ce prénom, Kendrick, ça vient d'Eddie Kendricks, chanteur de soul au sein du groupe The Temptations d'abord et chanteur en solo ensuite.
On pourrait dire que...
Et revoici Nicolas Rogès, auteur du livre Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche. Nicolas Rogès connaît aussi bien Kendrick Lamar qu'Eddie Kendricks que vous entendez en ce moment.
C'était un des chanteurs favoris de la mère de Kendrick Lamar parce que la soul fait beaucoup partie de Kendrick Lamar et ses parents l'écoutaient tout le temps. Donc Compton des années 80, c'était de la soul qu'on jouait, c'était pas encore du gangsta rap, c'était de la soul et du funk qui rythmaient les fêtes que les parents organisaient le soir, parce que les parents de Kendrick Lamar étaient des gros fêtards. Et c'était Eddie Kendricks, Curtis Mayfield, Al Green, Otis Redding, tous ces grands noms de la soul et aussi du funk par la suite. Et en fait, il a gardé ça en lui.
Ce qui est impressionnant finalement avec Kendrick Lamar, c'est à quel point, à 33 ans, il a digéré presque toute l'histoire de la musique noire américaine. Il y a un genre dans lequel il a joué un rôle premier, c'est celui du jazz. Parce que Los Angeles, Compton, c'est pas forcément une ville qu'on associe au jazz, mais c'est une ville qui a une histoire avec le jazz.
C'est une ville qu'on n'associe pas toujours au jazz et je trouve ça dommage dans le sens où dans les années 20-30, c'était une plaque tournante du circuit jazz américain tout simplement. Donc l'ADN du jazz s'est vraiment ancré dans la ville à cette époque-là. Et ce que fait Kendrick Lamar sur To Pimp a Butterfly en 2015...
Cet album donc, c'est le titre de l'album, To Pimp a Butterfly.
Pardon. Ce qui fait cet album-là en fait, c'est remettre le jazz au centre de l'équation. Là, on est en 2014-2015. Le jazz est presque oublié, c'est plus une musique qui est écoutée. Et là, Kendrick Lamar réunit des musiciens avec lui, la génération qui a son âge en fait, qui a entre 30 et 40 ans. Donc il crée quelque chose de totalement nouveau.
Une musique de jazz inédite.
Ouais, une musique qui en fait fait référence à toute l'évolution de la musique nord-américaine, qui part du gospel jusqu'au rap. Et c'est une sorte d'arbre, donc Kendrick Lamar est le fruit sur To Pimp a Butterfly, et sa racine à lui, c'est le jazz, et il le fait en le mêlant à un niveau qui a poussé certains à le comparer à John Coltrane. C'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Il n'y a aucun rappeur avant qui a été comparé à John Coltrane dans sa façon de poser sa voix, dans sa façon de réfléchir à ses albums, dans la spiritualité aussi qu'il infuse à ses albums. Il se rapproche beaucoup de John Coltrane.
Dans cette nouvelle génération de collègues californiens que Kendrick Lamar a réunis pour l'album To Pimp a Butterfly en 2015, il y a des musiciens qui se baladent du jazz au hip-hop. Je vous donne quelques noms. Kamasi Washington, Ryan Porter, Thundercat ou Terrace Martin.
Fuck you, motherfucker. You a hoe ass nigga. You don't know you gon' lose on a good bitch. My other nigga is on. You off. What the fuck is really going on?
This dick ain't free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meet, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, raised my cap salary, celery, telling me green is all I need. Evidently, all I see was spam and raw sardines. This dick ain't free.
Ce morceau a presque rien de rap. C'est presque uniquement du free jazz. Et c'est parfois déroutant. Je pense que pour un auditeur de rap, ça peut être déroutant d'entendre un rappeur rapper sur ce type d'instrumental. Et donc, ce titre-là résume vraiment sa filiation avec le jazz. C'est Kendrick Lamar qui dit aux gens qui jouent avec lui en studio, faites ce que vous voulez et moi je me débrouille. Et donc, ils vont lui construire un instrumental où tout part un petit peu dans tous les sens, comme peut l'être le free jazz. Et Kendrick Lamar va dire, ok, laissez-moi faire le reste et je vais poser ma voix là-dessus et je vais essayer de faire quelque chose qui colle à tout ça.
Kendrick Lamar, ou toute l'histoire de la musique noire américaine, réactualisée pour les temps modernes. Et voici l'une des sources à laquelle il s'est abreuvé, Curtis Mayfield. Move on up.
Move on up. your destination. Though you may find from time to time complications.
Là-dessus, on pourrait dire que... Non, mais ça fait trop parler, là.
Ouais, il faut la refaire.
Là-dessus, on pourrait dire que...
C'est la seule phrase que j'ai fait dire à Nicolas Rogès. Là-dessus, on pourrait dire que... Une phrase qui raconte sa grande érudition musicale. Nicolas Rogès, auteur de Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche, un rappeur américain au cœur de cet épisode de Pop & Co jusqu'à midi sur France Inter. Voici Kendrick et Curtis Mayfield, vus par Nicolas Rogès.
Il y a beaucoup de choses qui le rapprochent de quelqu'un comme Curtis Mayfield, dans le sens où Curtis faisait, comme Kendrick, des chansons qui étaient à la fois facilement écoutables, donc sur lesquelles on pouvait danser, mais également des chansons à message. Et c'est pour ça que ces gens-là ont réussi à perdurer encore aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à toucher deux types de public, le public qui a envie de s'amuser et le public qui a envie de réfléchir. Et Curtis Mayfield aussi, pour revenir à lui, avait vraiment cette dimension d'attachement à la terre et dans sa communauté. C'est devenu un symbole des droits civiques. Curtis Mayfield, comme Kendrick Lamar, va le devenir pour le mouvement Black Lives Matter.
Dans quelle mesure Kendrick Lamar s'inscrit dans les icônes de la lutte pour les droits civiques, mouvement qu'on appelle aujourd'hui Black Lives Matter? Dans quelle mesure il s'inscrit dans cette histoire-là?
Il s'inscrit dans cette histoire-là de par sa posture. Un homme noir, fier de l'être, qui n'a jamais peur de parler des problèmes qui ont émaillé sa communauté, mais aussi de toutes les choses magnifiques qui en ont émergé. Il s'inscrit dans cette mouvance-là par une chanson qui s'appelle All Right, qui est sortie en 2015 et qui dit tout simplement « Je sais que ça va bien aller. Si Dieu est avec nous, encore une fois, c'est quelqu'un de très spirituel, je sais que tout va bien aller. »
Et voici un extrait de All Right. Oh. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Et cette chanson-là est devenue un hymne de la lutte, au même titre qu'ont pu l'être Move On Up de Curtis Mayfield ou We Shall Overcome de Mahalia Jackson pendant les droits civiques. C'est une chanson qui a résonné en 2015 et qui résonne j'ai envie de dire malheureusement encore aujourd'hui, suite à la mort de George Floyd, les manifestations qui ont suivi, All Right était encore joué à tel point qu'il a battu son record de stream sur Spotify. Donc ça montre vraiment que c'est une chanson qui est ancrée dans la douleur, mais qui est aussi synonyme d'espoir. Et je pense que c'est ce que les droits civiques voulaient dire, c'est ce que le combat de Martin Luther King voulait dire aussi. C'était « j'oublie absolument pas tout ce qui nous arrive d'horrible ». Mais je sais qu'ensemble, on va réussir à s'en sortir, et c'est ce que cette chanson dit. Et je pense que c'est pour ça aussi que Kendrick Lamar est devenu un symbole aussi fort.
All Right, chanson de 2015, devenue hymne du mouvement Black Lives Matter encore aujourd'hui, au point que dans les rassemblements contre les violences policières, les manifestants en scandent les paroles. Cette chanson, All Right, est brandie dans la rue, et en février 2016, le morceau a les honneurs de Fox News, chaîne de télé américaine proche des ultra-conservateurs et favorable à Trump. Après diffusion de cet extrait du morceau, les journalistes présents en plateau commentent. Vous avez vu ça? Dans cette chanson, Kendrick Lamar parle des violences policières avec les paroles suivantes. Nous haïssons la police quand elle nous tue dans la rue pour le show. C'est la raison pour laquelle je dis que le hip-hop est beaucoup plus dommageable pour les jeunes afro-américains que le racisme ces dernières années. Un an plus tard, en 2017, Kendrick Lamar publie l'album Damn. Dans deux des morceaux du disque, il reprend précisément cet extrait de Fox News. Et il y répond dans la chanson intitulée DNA. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Il dit précisément tout ce qui me compose et que vous pouvez trouver mauvais, fait ce que je suis moi et fait ce qu'est l'Amérique, ce qu'est l'histoire de l'immigration en Amérique. Il n'essaye pas de s'adapter au public blanc, en fait. Il se présente comme il est et il dit tout simplement, soit vous m'acceptez comme je suis, soit vous ne m'acceptez absolument pas.
Je ne suis ni un enfant de cœur, ni un voyou achevé.
Il dit exactement ça, il dit « mon pote, je suis juste Kendrick ».
J'aimerais revenir sur ce passage de Fox News. J'aimerais éclaircir un peu la démarche de Kendrick Lamar qui consiste à déconstruire ce discours.
En fait, il dit tout simplement « le rap n'est pas le problème ». C'est pas ce que je dis qui est le problème, c'est le fait que des dizaines d'hommes et femmes noirs se fassent tuer dans la rue. Donc pourquoi est-ce que vous parlez de ce problème-là, soi-disant le rap, et pas d'autre chose? Vous détournez complètement l'attention. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on a beaucoup écrit sur le rap. On a beaucoup écrit sur cette musique et on a beaucoup mal écrit et mal parlé de cette musique. On l'a souvent réduit à des clichés. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces clichés existent? Pourquoi est-ce que les rappeurs parlent de trafic de drogue? Pourquoi est-ce que les rappeurs parlent de violence policière? Il ne faut pas se dire c'est le mauvais message, il faut se dire pourquoi est-ce qu'ils portent ce message-là? Et c'est à ça qu'il faut s'intéresser, et c'est ce que Kendrick Lamar met en avant dans cette chanson.
En 2018, Black Panther sort sur les écrans. Le rôle principal du film est un super-héros noir, incarné par Chadwick Boseman, décédé d'un cancer le 29 août dernier. Black Panther, déclaration de fierté. Black Panther, déclaration de la fierté noire et de la beauté du continent africain, est un phénomène mondial bien au-delà du cinéma. Comme les musiciens soul des années 70 qui signaient les musiques des films de la Blaxploitation, Kendrick Lamar va écrire et produire des morceaux inspirés par Black Panther. Cette chanson All the Stars, on l'entend pendant le générique de fin du film.
Bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. On my mama, that's the realest shit.
Let's talk about love. Is it anything and everything you offer? I need to feel your heart.
Pour écrire ce récit autour de Kendrick Lamar, je me suis donc appuyée sur le livre de Nicolas Rogès, Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche, publié par Le Mot et le Reste. Par ailleurs, je vous conseille la lecture d'un long reportage dédié à la ville de Compton, que Nicolas Rogès a écrit pour le site L'ABCDR du son. Fatima Das, dont vous avez entendu la voix, vient de publier un premier roman, qui lui s'intitule La Petite Dernière, aux éditions Notabilia. Fatima Das fait partie des nombreux fans français de Kendrick Lamar, comme qui par exemple ? Comme Jean-Louis Murat.
C'est un enfant surdoué, et l'écoute de Kendrick Lamar m'a redonné foi. En moi-même, disons, de façon indirecte, par ricochet, j'ai retrouvé foi en moi. Et il peut travailler à peu près avec toutes sortes de gens, et c'est toujours du Kendrick Lamar. Et moi, j'aime bien travailler avec beaucoup de gens, et qu'à la fin, ça soit toujours du Murat. Je me sens très très proche de lui.
Un vainqueur de Troie qui ne m'aime pas veut que foire la chanson. Un tu de moi qui ne m'aime pas veut que je perde la raison.
Ce morceau de Jean-Louis Murat dans Pop & Co et sur France Inter.
Je me démasque.
Démasquez-vous. Vous voulez un café, un truc ?
Ouais, je veux bien.
Un thé ou ?
Je veux bien un café. Plutôt un long.
C'est Louis Chédid qui fait le café. Pop & Co aujourd'hui, c'est un rendez-vous chez lui, ou plutôt dans le studio qu'il a installé au rez-de-chaussée d'un appartement du quartier de Montparnasse à Paris.
Ça fait longtemps que vous avez un studio à domicile ?
Oh oui, depuis 1980, je crois. Mais ouais. J'ai toujours aimé ça, moi, les boutons, les. Ouais. J'ai un côté comme ça. Moi, je suis pas du tout automobile ou truc. Je connais rien au moteur ou machin comme ça. Mais tout ce qui peut me servir à faire de la musique et puis à trouver des sons nouveaux. Par exemple, ainsi soit-il, la nappe de synthé qu'il y a là, c'est parce que...
Au début, là.
Oui, oui. C'est parce que j'avais acheté un Prophet 10, qui est un gros synthétiseur de l'époque.
Moteur.
Et j'avais mis mes mains sur ce truc et ce son est sorti en premier. Et j'avais ce texte de cinéma là, avec tous les termes de cinéma. Puis c'est devenu comme ça. Mais je pense que si j'avais pas acheté ce synthé, j'aurais jamais fait cette chanson.
L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il.
Est-ce que vous savez quand c'est fini? Quand la chanson est finie? Qu'il ne faut plus la retoucher, rajouter un truc, en enlever?
Moi, ce que je sais maintenant, c'est que quand je termine une chanson, je vais en faire une autre, qui sera peut-être beaucoup moins bien, mais qui va peut-être me permettre d'en faire encore une autre après, qui sera mieux, moins bien, et voilà, c'est un espèce de cycle.
Les chansons, telles que vous en parlez, ça me fait penser à des marches.
Oui, c'est ça.
Comme des paliers d'une échelle.
Et parfois, on loupe la marche. Parfois, on redescend de l'escalier sur les fesses et il faut remonter. Mais en fait, c'est un parcours, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire ce que je vais faire maintenant, ça va être encore mieux que ce que j'ai fait avant. Si on ne se dit pas ça, bon, bah, c'est foutu. Il faut toujours être dans cette curiosité-là, en tout cas, ça c'est sûr.
On descend ?
Ouais. Allez. Je vous passe devant. Hein.
Ouais. En février dernier, Louis Chédid a publié un nouvel album. Tout ce qu'on veut dans la vie. C'est le titre du disque, comme celui de ce morceau.
Un baiser, rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne. Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Comment est venue cette phrase alors? Tout ce qu'on veut dans la vie?
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'était dans le sud, je crois. Et en fait, c'est venu beaucoup plus de la musique, en fait, des accords.
C'est parti de quels accords alors?
Bon, les accords, c'est.
Tout ce qu'on veut dans la vie.
Les accords, c'est parce que j'ai dû faire. Ah non, merde, putain, c'est pas bien accordé ça. Vous enlèverez les gros mots. Hein.
Je suis pas sûr.
Je suis sûr que vous n'allez pas bien. Mais bon, c'est pas grave. J'assume. Voilà, c'est ça, c'est... comme ça, et puis alors il y a une phrase qui arrive, puis tout d'un coup il y a un truc qui se déroule, quoi. Alors ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, enfin c'est vraiment
Et alors le fil qui se déroule, ouais. C'est du bouche à bouche, des corps à corps. C'est s'embrasser, c'est se tenir.
Très covidien.
Non, mais parce que cette chanson, elle est sortie, elle a été publiée 15 jours avant le confinement.
Exactement.
Donc elle prend un sens.
Ouais. C'est fou, hein. C'est fou de se dire ça. Mais c'est vrai que quand le Covid est arrivé et tout ça, je me suis dit, oh là là, les gens vont... Ça va les faire rigoler, cette chanson. Mais pas du tout, en fait. C'était une chanson, au contraire, qui était presque un fantasme d'espoir, enfin, de se dire, voilà, on va retrouver ce genre de choses. Et j'ai beaucoup de témoignages sur cette chanson, justement, de gens à qui ça faisait du bien d'écouter ça.
Est-ce qu'on peut écouter quelques-uns des ingrédients, quelques-uns des éléments qui composent tout ce qu'on veut dans la vie?
Oui, oui, absolument.
Allez-y.
Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, ce qu'on veut dans la vie.
Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut, dans ce passage-là, écouter les pistes, les ingrédients qui font musique latine?
Oui, 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 bien sûr. Alors, attends.
Ça, c'est quoi, ça?
Ça, c'est un espèce de...
Comme rythme, c'est...
Ouais, pff, alors là, je pourrais pas le dire. C'est un espèce de truc... c'est un espèce de truc un peu à la... C'est pas brésilien, mais c'est comme si on jouait de la guitare, mais au piano. C'est-à-dire...
Est-ce qu'on peut arrêter?
Oui, oui.
En tout cas, il fait chaud, quoi.
Oui, oui, oui. Oui, c'est des rythmes latinos, quoi. À part que la bossa, par exemple, des trucs comme ça, c'est un peu plus lent que ça, quoi. La fille d'Ipanama, des trucs comme ça, c'est plus lent, quoi.
Il y a les percussions aussi, j'imagine, qui font latine.
Ah ouais. Mais je mets juste les percs.
Ouais.
D'accord. Alors ça, c'est des petites maracas. Ouais. C'est une petite boucle de... Le conga, c'est avec une maracas comme ça. J'adore ce genre de perc. C'est vraiment... C'est
percussion.
Ouais.
Mais ces rythmes latins, cette ambiance latine, c'est présent quand même en fil rouge dans votre répertoire, je trouve.
Oui,
il y a des moments où vous avez pris vraiment d'autres directions, plus synthétiques, mais ça a toujours été là.
Oui, 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 absolument.
Comment vous avez découvert ça?
Mais disons, je pense qu'un des premiers spectacles que j'ai vus à l'Olympia, c'était Harry Belafonte. Et Harry Belafonte, il avait des chansons un peu calypso, comme ça, avec des percs, des machins, tout ça. Et alors, il y a ça. Il y a le fait aussi que j'ai beaucoup écouté Gilberto Gil, enfin, tous ces grands chanteurs brésiliens, Carlos Jobim et tous ces gens-là.
João Gilberto.
João Gilberto. Enfin, ouais, j'ai beaucoup écouté ça. C'est une musique qui me plaît parce qu'elle est très charnelle, quoi. Elle est sensuelle, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, ça marche avec la voix que j'ai, moi. Je n'ai pas une voix de stentor, donc j'ai une voix plutôt intime et tout ça. Donc, ça marche bien avec ce que je fais.
Petit rappel des faits, pour celles et ceux qui auraient raté le début, nous sommes dans le studio de Louis Chédid pour entrer dans les coulisses de sa chanson « Tout ce qu'on veut dans la vie ». Ces coulisses racontent son écriture autant que le bonhomme. Et c'est le moment d'écouter la piste vocale du morceau.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Moi, en fait, j'ai jamais l'impression d'interpréter. C'est drôle, hein. Je me dis jamais, j'interprète. C'est un truc naturel. Je suis pas en train de me dire, je joue un rôle, quoi. Vous voyez,
vous mettez pas une intention spéciale.
Non, je la fais à la manière de Louis Chédid, quoi. C'est tout.
Il y a des interprètes qui sont plus théâtraux que d'autres. Je pense à Brel.
Ouais,
c'était ultra théâtral. Vous êtes pas du tout dans ce registre-là. Il y a pas.
Pas du tout, du tout. Pas du tout. Brel, j'adore ses chansons. Ses chansons sont extraordinaires. Mais la façon de les faire, pour moi, c'est tellement expressionniste. Ça me fait penser un peu aux acteurs de la Comédie française des années.
Qui déclament un peu.
Oui, qui déclament. Qui articule absolument parfaitement. Bon, c'est bien d'articuler, c'est sûr, mais parfois c'est trop, quoi. Ah, vous voyez l'emphase et le côté lyrique comme ça. Je préfère la façon de chanter d'un Brassens, par exemple, ou d'un Traîné, quoi. Voilà.
Et il y a des chœurs aussi.
Ouais. Ouais, absolument. Il y a des chœurs. Alors, attends, ils sont là.
Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face.
bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche.
Pourquoi vous êtes marré en entendant que l'on se touche?
Oui, parce que c'est moi qui l'aurais dit. Parce que moi, je le fais. Oh, ça attend que l'on se touche. Je fais un truc comme ça, un peu crooner de basique. Et on a rigolé avec ça, oui. Parce que je leur disais, il faut que l'on se touche.
On n'est pas loin du gémissement, quoi.
Et pas loin du gémissement, exactement. Sauf qu'on se touche, hein, quand même. J'ai eu la chance d'avoir des musiciens sur ce disque très... très vivant, quoi. Vraiment, c'est une super équipe. Il y a des disques comme ça qui se font, c'est le tapis rouge, quoi. Ça tout se fait, il n'y a pas de malaise, tout se fait très facilement. Il y en a qui sont plus difficiles.
Est-ce qu'on peut écouter les ingrédients successifs? On commencerait par la voix, et puis les maracas, enfin, petit à petit, quoi.
D'accord, oui. Alors, attends.
Et vous faites entrer les trucs comme vous voulez.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Qu'on veut dans la vie.
Tout le monde est là.
Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face.
Louis Chédid commence une tournée de concerts à Forges-les-Eaux le 25 septembre, suivront Lens, Maisons-Alfort ou Roubaix en octobre. Le 12 novembre 2020 et le 11 janvier 2021, Louis Chédid sera sur la scène de l'Olympia à Paris. La réalisation de Pop & Co est signée Coy Nguyen et c'est Florent Layani qui tenait la caméra aujourd'hui. Ilinka Negulesco assure script, casting et toute la documentation. Le beatmaker de l'émission s'appelle Jean-Baptiste Audibert. La semaine prochaine, Pop & Co est dédié à Dalida et on soulèvera le capot d'une chanson de David Walters. À samedi.